la croche oreille.
Alors, salut tout le monde, bienvenue à la Croche-Oreille, le rendez-vous du dimanche dédié au parcours et aux expérimentations sonores que nous proposent les artistes, les créateurs et créatrices d'aujourd'hui. Alors, je vous propose ce soir une rencontre fort chaleureuse avec l'artiste sonore et réalisatrice de films, Jenny Cartwright. C'est une fille de Québec, je crois, qui vit à Montréal et qui crée, imagine, développe depuis quelques années des projets de création sonore aux allures de documentaires, des projets qu'elle réalise autour de grands enjeux sociaux, pour en nommer quelques-uns, le féminisme, la quête identitaire, le mieux-être dans nos collectivités notamment, ainsi que dans les collectivités à l'étranger. J'ai rencontré Jenny il y a quelques semaines maintenant à Montréal. On a fait ensemble le tour de ses projets sonores, tout ça émaillé de ses réflexions. D'entrée de jeu, on va écouter ce soir avec elle un projet de création sonore intitulé « La trace » que Jenny réalise dans le cadre d'un atelier de création à Phonurgia Nova. Ça se passe en France. Puis un extrait d'un projet sonore d'envergure vraiment intéressant qui relate une épopée historique du Front de libération des femmes du Québec. On est tout à fait au cœur des années 70. Et enfin, une magnifique création pour conclure qui s'intitule Hortense. C'est inspiré de La Roseraie, une nouvelle de l'écrivaine Esther Rochon. Cela dit, je vous parle brièvement de Jenny Cartwright. Elle travaille à la production et à la réalisation de films documentaires depuis une vingtaine d'années. Maintenant, une expérience riche de ses voyages à l'étranger, au Burkina Faso, au Mali, en Côte d'Ivoire, en Israël, en Islande, au Sri Lanka et en France notamment. Jenny Cartwright tourne son premier long métrage documentaire en 2014, presque par accident, dit-elle, lors d'une mission humanitaire à Ouagadougou. Elle a mené depuis de nombreux projets de films qu'elle réalise, produit, monte et distribue. Parallèlement à tout ce travail artistique, elle s'est engagée dans l'action sociale et communautaire, là où j'ai appris, dit-elle, à faire beaucoup avec peu, tout cela lui permettant de travailler de manière indépendante et de garder surtout un œil très critique sur la société. Alors voilà qui est dit, brève introduction pour cette entrevue fort brillante que j'ai réalisée avec Jenny qui nous éclaire sur son travail. Alors on écoute ensemble cet échange que j'ai réalisé avec elle autour de sa démarche artistique et de ses projets de création sonore. Jenny, quand on lit ton curriculum vitae, je vais dire ça comme ça, on réalise que tu as un parcours tout de même assez fabuleux, intéressé d'abord par la création cinématographique, tu vas flirter un peu avec les arts visuels, l'installation vidéo, maintenant la création sonore. Comment ça apparaît, cette passion pour la création dans ta démarche de vie en général?
C'est une bonne question. En fait, je me destinais pas du tout à la création. J'ai jamais pensé que j'allais devenir créatrice. J'ai fait un bac en études cinématographiques, donc quelque chose qui était beaucoup plus théorique à l'Université de Montréal. Après, je me suis mis à travailler comme technicienne, puis je suis passée vraiment d'un poste à l'autre. J'ai travaillé comme monteuse, j'ai travaillé comme directrice de production, j'ai travaillé comme recherchiste, puis à la base, quand j'étais à l'université, moi, je me destinais à la direction photo. Donc, j'ai jamais pensé que j'allais être réalisatrice. Puis, j'aime vraiment beaucoup la technique. J'aime vraiment beaucoup ça, jouer avec des fils, puis rouler des fils, puis jouer avec des ordinateurs, puis déboguer tout ce qui marche pas. Puis, à un moment donné, j'ai fait un contrat pour une ONG où je suis partie 6 mois au Burkina Faso écrire un documentaire sur les droits des femmes. Et il y avait devant ma porte, il y avait un documentaire. Mais moi, je dis toujours que c'est un film qui s'est imposé à moi. C'est pas moi qui ai choisi de faire ce film-là. Le film, il était dans ma cour. Il fallait absolument que je le raconte. Puis j'avais une amie qui allait me visiter 2 semaines plus tard quand j'ai rencontré ces gens-là. Puis je lui ai écrit, j'ai dit, il faut que tu m'achètes un trépied. Donc, j'ai commencé ce film-là avec une caméra pourrie qui pouvait jamais filmer plus que 5 minutes, un H4 et un trépied plein de sable, et c'est tout ce que j'avais. Et ben, le film s'est imposé à moi, j'ai fait ce film-là, puis depuis, ben, j'ai continué.
C'est parti. Dis-moi, Jenny, dans ton parcours, dans ta démarche artistique en tant que telle, il y a l'art sonore qui apparaît. De manière, je ne sais pas si ça apparaît de manière avec le hasard ou si c'est le destin, mais je dirais que cette passion-là que tu as développée, est-ce qu'elle t'a été inspirée par quelque chose de particulier?
Bien, ça faisait longtemps que j'écoutais des documentaires sonores français. Je suis une grande mordue de Arte Radio, de France Culture. Et ça faisait longtemps que j'avais derrière ma tête le fait qu'un jour, moi aussi, j'allais en faire un. Donc, ça, c'était clair, mais c'était pas vraiment précis. Puis à un moment donné, mais comme je te disais tantôt, je suis tombée sur l'histoire qui nécessitait d'être racontée de cette façon-là. Donc c'est vraiment ça l'entrée.
Jenny, t'as réalisé, parce qu'on est dans cette mouvance de l'art sonore, t'as réalisé un projet qui s'intitule À la trace, n'est-ce pas? C'est un projet qui date que t'as réalisé récemment?
C'est un projet que j'ai fait en 2018, je pense. C'est mon premier projet. En fait, j'étais allée dans la même école dont je parlais, à Arles, à Fonurgia. Je suis allée 2 fois, en fait. J'ai fait fiction sonore l'été dernier, puis l'été d'avant, j'avais fait documentaire sonore. Donc là, c'était un peu particulier comme projet parce qu'on était 10 dans le groupe. On avait un thème qui nous avait été donné avant qu'on arrive là-bas. Puis on a co-réalisé ce documentaire de 20 minutes à 10. Donc, on a fait beaucoup de compromis et on a vraiment fait toutes les étapes ensemble. La seule chose qu'on n'a pas fait en groupe, c'est les entrevues qu'on s'est séparées. Mais chaque matin, on écoutait tout le matériel, on faisait des assemblages, on écoutait, on découpait, on recollait les post-it dans un ordre différent. Puis, jusqu'à ce qu'on s'entende, on discutait de qu'est-ce qui allait aller où. Et on a fait ça jusqu'à 5 minutes avant la séance d'écoute publique.
Donc, un vrai processus de création collective sur le plan sonore.
Oui, je l'avais jamais fait.
Et comment ça s'est déroulé? Est-ce que vous aviez un plan de match pour les captations sur le terrain, pour la création sonore proprement dite? Qu'est-ce qui reliait toute cette équipe?
Bien, on avait le thème qui était le thème de la trace ou la question de la trace qu'on nous avait envoyé avant, puis chaque personne devait apporter un objet ou une idée ou une chanson ou quelque chose qui lui faisait penser à ça. Moi, j'étais la seule Québécoise, j'avais apporté une chanson de Kid Kuna et arrivé là-bas, on a mis en commun tous nos objets finalement. Et puis, bien, les formats formatrices sur place nous ont un peu aiguillés vers qui on allait pouvoir rencontrer, mais c'est vraiment on s'est vraiment posé la question tout le monde ensemble, qui est-ce que ce serait intéressant de raconter, et puis quelqu'un, en évoquant le thème de la trace, il y a quelqu'un qui disait, ah moi je pense que j'aimerais ça parler à un tatoueur, moi j'aimerais ça parler à un éboueur, moi j'aimerais ça parler à une archiviste, donc on a fait la liste puis on a ratissé la ville.
Jenny, on va l'écouter, ce beau projet intitulé À la trace, vraiment magnifique.
C'est quelque chose qui peut s'amenuiser ou disparaître complètement.
La trace.
Mais pas nécessairement tout le temps, peut-être que ça reste.
Et, une cicatrice, une photographie.
Ben, c'est quelque chose qui est créé aussi par un événement
qui
aussi peut être multiple.
Une succession de petites choses.
Tra-la-la-la, la seus d'autore o maitin le waroisung, aya, aya, maitin le waroisung, maitin le waroisung.
Maurice Roux, je l'ai rencontré en 2006, il chantait la seus d'autore dans la voiture. Et un jour je lui ai dit, oh, j'aimerais bien t'enregistrer, comme ça je vais l'apprendre. Il m'a dit, non, il est hors de question que tu m'enregistres. Donc j'ai passé 4 ans sans pouvoir enregistrer la chanson.
Aïe, 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 aïe.
Et j'ai prétexté de faire des essais et je lui ai dit, chante-moi la Silios d'Autoriba. Et donc je l'ai coincé au coin de la maison, là. Et il a fait patapim, patapum, malagueño, souit.
Aïe, aïe, aïe. Non pas à naquetar, tre kembatresco plujur. Aïe, aïe. Kembatresco plujur, kembatresco plujur.
C'est une trace unique dans l'oralité pour nous, parce que cette chanson, elle n'a été enregistrée nulle part ailleurs. Maurice Roux, il la sort de l'oralité en Gascogne. À coup sûr, ça a été écrit par une ou plusieurs femmes, parce que ça décrit las filles d'Autoriba, les filles d'Autoriba, qui sont comme un peu les filles au XXIe siècle, qui ont un peu les mêmes joies, les mêmes peines aussi, c'est ça qui est intéressant. Il y en a une dans la chanson qui se plaint d'être mal mariée. Si vous m'aviez donné au Pierre, lui c'était un gentil garçon, pas à cet emplâtre qui me fait goûter le bâton tous les jours. Elle n'est pas exceptionnelle cette chanson, mais de son histoire elle en devient quoi. C'est comme un bijou unique. Et pourtant c'est quoi, c'est un fichier wave. Hein. On est complètement fou en fait. On est complètement fou.
Niente qua plasto errado, patapim patapum malagueño son. Tra la la la, niente qua plasto errado, aquí la colación. Aya, aya, aquí la colación, aquí la colación, patapum.
1484. 1320.
Un mouvement irrésistible pousse à garder, maîtriser, interpréter les traces.
De 1093-1095.
1822.
1500.
1320.
La pulsion d'archive.
1484.
1500.
13e, début 14e.
On me dit que je mène toujours des enquêtes, mais oui, j'aime ça. Alors effectivement, je vais en fait essayer de déceler toute trace possible pour essayer de remonter l'histoire du livre. Et ça, c'est particulièrement intéressant parce que avec un livre ancien comme ça, que ce soit un manuscrit ou un livre imprimé, on peut en fait le découvrir par plusieurs angles. Alors on peut travailler sur la reliure, c'est-à-dire aussi là, vous avez par exemple une reliure en bois. Alors, quand les documents vont en restauration, quand ils sont abîmés, en fait, on a plus de lisibilité du document. Quand il est en parfait état, on ne voit pas tout à fait toutes les étapes de la reliure. Mais parfois, certains ont été, en fait, restaurés. Et donc, on a pu voir, en fait, que c'était du bois, quelle essence de bois, et voilà. Et parfois, il y a des petits dessins. On peut y voir des mains. Alors, les mains, en fait... C'est pour indiquer un passage important, il n'y en a pas là.
Peut-être pas.
Regardez, là vous avez une petite main, une manicule.
Elle peut être plus belle,
et voilà, c'est toujours intéressant. Manicule, hein, là, par exemple, important. Je viens de voir qu'on a une échancrure. Ah, voilà. Vous voyez, ça c'est en fait la peau qui a été... c'est les échancrures naturelles de la peau. Voilà. Vous avez donc un ouvrage en parchemin. Et là, c'est une peau de veau mort-né, hein, un vélin, comme on appelle. Il provoquait des avortements, hein, pour avoir cette quantité de peau. D'origine. Vous voyez, la quantité de peau, là, il faut l'imaginer.
On ne voit plus que le support.
Là, on n'oublie pas que c'est une peau. Première page, elle est un petit peu abîmée.
Les accidents, regardez la beauté.
Voilà.
Je ne fais plus beaucoup de découvertes.
Elle est très fine.
Comme si c'est changé, d'abord, je travaille de la page. Je travaille de la page.
Et regardez la
fine. On le voit bien, là, d'ailleurs. Donc là, ce n'est pas un petit outil qui grave.
Il a servi de relire.
Mais par contre, c'est une trace. On va suivre
le terme de l'origine.
La source...
Elle s'appelle Echo.
Elle s'appelle
Echo. Elle s'appelle Echo.
Echo. Elle est amoureuse de Narcisse.
Elle est amoureuse de Narcisse.
Elle est amoureuse de Narcisse.
Echo.
Il y a quelqu'un ?
Elle ne sait ni se taire.
Il y a quelqu'un ?
Ni parler la première.
C'est Junon qui l'a condamnée. Parce qu'elle lui reprochait de lui avoir menti.
C'est Echo.
Echo.
La résonante.
Y a quelqu'un ?
Echo.
Pourquoi tu pars ?
Est amoureuse de Narcisse. Elle a été condamnée.
Pourquoi tu pars ?
À répéter
les sons
et reproduire les mots qu'elle entend.
Pourquoi tu pars ?
C'est des injures sur la police, ça peut être des injures racistes aussi, ou alors des sexes, un tag en sexe, voilà. Rarement, oui, si je t'aime, un tel, cela on les efface aussi. Parce qu'à savoir que quand on fait une rue où il y a des tags, j'essaye de faire à la rue entière. Parce que sinon, ça revient de suite après. Parce que chaque tagueur a sa signature. En général, quand ils attaquent une rue, on les suit à la trace un peu. C'est une continuité dans la ville. Alors déjà, il faut regarder la nature du mur. Si c'est un crépi ou s'il y a une peinture. Et il y a des peintures à la chaux. En fait, la chaux, la peinture à la chaux, absorbe le tag. On ne lève pas le tag à ce moment-là. Il existe toujours, il est dessous la chaux. Seulement, le problème qu'on a avec la chaux, c'est qu'après, souvent, si on a des affiches dessus ou quoi, qu'on intervient pour nettoyer au Karcher, on enlève la chaux et ça va faire ressortir, le tag ressort.
Le terme trace est parfois considéré comme synonyme des termes marque, empreinte, indice.
Je me dis que c'est inhérent à toute forme d'existence, que rien ne peut exister sans laisser de traces.
Laisse une trace.
Ça peut être aussi un souvenir, une mémoire laissée.
Quelque chose qu'on lègue. Malgré nous.
C'est le passé, c'est le...
Une succession de petites choses.
Une pierre posée sur une autre.
Même sans le vouloir, on laisse toujours des traces.
De mes anciens qui portaient une langue, mais aussi cet accent.
Pense que la trace que tu as laissée pourrait égarer ceux qui viendraient à la suivre.
Voilà la trace indélébile de ce que je suis. C'est cet accent.
Jenny, on vient d'entendre à la trace, mais il y a un autre projet aussi que je trouve assez mystérieux parce que tu as fait un choix assez déterminant qui consiste à en faire une fiction sonore ou un docu-fiction sonore ou un documentaire sonore, tu vas me dire, ou ce projet qui s'intitule « Debout » et qui traite d'une question féministe, je vais le dire comme ça, de femmes emprisonnées. Tout ça dans cette époque des années 70. Ça s'appelle d'ailleurs le Front de libération des femmes. J'aimerais que tu me parles de ce projet-là et que tu éclaires un peu ce mystère autour du fait que tu en as fait un documentaire sonore plutôt qu'un film proprement dit.
Ouais. Mais cette histoire-là est apparue à moi quand je me suis fait arrêter en 2013 dans la foulée des manifestations étudiantes qui ont débordé un peu 2012. Puis je me suis mis à m'intéresser beaucoup au règlement municipal qui a fait en sorte qu'on a pu être arrêté plus de 7000 personnes quand même en très peu de temps. Et là, j'ai réalisé que c'était un règlement qui datait de 1969 et qu'il y avait eu une manifestation qui a beaucoup, beaucoup marqué mon imaginaire, où 200 femmes se sont attachées au Monument national pour protester contre ce règlement-là. Et c'est aussi la première manif de femmes, parce que les femmes n'avaient pas autant de place dans l'espace public à l'époque que maintenant. Donc ça a beaucoup frappé mon imaginaire. Je me suis mis à lire, puis là, j'ai découvert que cette nuit-là, il y a le Front de libération des femmes qui est né, et qu'ils ont fait un autre coup d'éclat extraordinaire, parce que jusqu'en 1971, les femmes au Québec n'avaient pas le droit de faire partie d'un jury. Donc là, j'ai voulu absolument immédiatement raconter cette histoire-là. Et ça m'est apparu très clair qu'il fallait que ce soit un documentaire sonore pour plein de raisons, notamment parce que il existe très, très peu d'archives de ça qui permettaient de vraiment plonger dans l'époque puis de se représenter à quel point la répression était forte. Si ça avait été un film, mais en fait, ça aurait été deux femmes, parce que c'est deux femmes qui racontent chacun leur point de vue, elles appartenaient à deux groupes différents, puis ça aurait été deux femmes assises dans leur salon en train de raconter une histoire. Ça aurait été vraiment, vraiment plate. Puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait beaucoup de conceptions sonores pour recréer les moments, même s'il n'y a pas d'archives. Tu sais, j'ai recréé des sons de manifs, de bombes, de policiers, de poursuites, de perquisitions. Puis ça aurait été vraiment extrêmement étrange si j'avais mis ça par-dessus une femme assise dans son salon. Tu sais, c'est pas possible de faire ça au cinéma. Alors que là, de le faire en documentaire sonore, ça donne immédiatement à voir ce qu'était l'époque. Puis il y avait aussi un statement féministe, parce que ces femmes-là, on les a pas beaucoup écoutées, puis ça a été complètement balayé de l'histoire, cette époque-là, cette histoire-là. Puis là, je me disais, ah, si je vous les montre pas, là, vous allez être obligés de les écouter. Parce que souvent, les femmes sont objectifiées, puis on se demande souvent, comme, est-ce qu'elles sont belles, qu'est-ce qu'elles portent, de quoi elles ont l'air. Donc là, je sais, comme je vais les soustraire du regard, comme ça, vous allez vraiment, vraiment les écouter. Et puis, pragmatiquement, il existe peu d'archives, mais il en reste quand même un peu. Les archives coûtent une fortune, et c'est vraiment un scandale, et c'est quelque chose donc je parle très souvent parce que je trouve que c'est problématique qu'on ait à ce point volé et monnayé notre mémoire. Des archives de Radio-Canada coûtent 38 $ la seconde. Donc, j'en avais là pour des dizaines de milliers de dollars si je faisais un film. Puis quand on fait un documentaire sonore, bien, c'est la moitié du prix.
Est-ce que tu es à l'aise avec cette expression de docu-fiction? Parce qu'au fond, on retrouve tout de même dans ton travail toute cette idée de la construction documentaire qui glisse du côté de l'imaginaire. Est-ce que tu es à l'aise avec ça? Ou peut-être qu'on s'en sort pas non plus, que toute part de documentation implique une réflexion, un certain nombre de choix?
C'est vraiment une bonne question, mais tu sais, tous les documentaires impliquent des choix subjectifs, mais là, j'avoue que j'ai recréé certaines archives parce qu'elles n'existaient pas. Il y a la couverture de presse, c'est des... Je l'ai fait jouer, mais en fait, c'est des titres de journaux que j'ai fait lire parce qu'il n'existait pas les archives. À un moment donné, il y a un communiqué de presse aussi, puis je l'ai fait lire et j'ai traité le son comme si c'était une archive parce que personne n'a enregistré cette conférence de presse-là parce que ça intéressait personne. Donc, docu-fiction...
Écoute, je veux pas te coincer avec ça parce qu'au fond, ça n'a pas tant d'importance. Puis je te propose qu'on écoute un extrait de cette belle création qui s'intitule « Debout ».
Le 25 février, 4 jours avant cette commotion, dans un appartement rue Prince-Arthur à Montréal, une quinzaine de femmes réunies par la lutte veulent faire un coup d'éclat. Exister au grand jour dans toute leur irrévérence, leur entièreté, sans décorum, bruyamment. Dire debout aux Québécoises, empêtrées dans leur servitude de femmes, empêtrées dans leur servitude de francophones. Ces militantes appartiennent au FLF, le Front de libération des femmes du Québec. Ce soir-là, elles apprennent que les femmes ne peuvent pas faire partie d'un jury. On est en 1971. Même pas 4 mois après l'application de la loi des mesures de guerre. Le Québec est échaudé. L'ampleur de la répression est énorme. 4 jours avant le coup d'éclat, les deux femmes dont les récits tissent ce documentaire, Marjolaine Péloquin et Lise Balcé, ne se connaissent pas. Avant d'en arriver à l'histoire de leur rencontre au tribunal, faut reculer à la fin des années 60 pour comprendre d'où elles viennent. Mesurer l'ampleur de cette action du 1er mars 1971. Une action politique forte et tapageuse. Une action politique qui dénonce haut et fort les institutions colonialistes et patriarcales. Une action politique complètement effacée de l'histoire.
J'avais déjà un terreau féministe quand même important parce que j'avais presque tout lu de Simone de Beauvoir. Et pour moi, c'était comme le voile qui se déchire. Là. Quand je me suis rendu compte que l'oppression dont on parlait pour le Québec, l'oppression collective du peuple québécois, nous autres, les femmes, on la vivait de manière spécifique de par notre condition de femme. Puis ça, le voile se déchire quand tu te rends compte de ça. T'sais. C'est la même chose, mais c'est appliqué à ta vie personnelle. Et là, ça rentre partout, là, dans ta vie, dans ta conscience. Je suis Marjolaine Péloquin. J'ai été prisonnière politique féministe à Tanguay, à la prison Tanguay, en 1971. Et je suis l'auteur du livre « En prison pour la cause des femmes, la conquête du banc des jurés », paru aux éditions du Remue-Ménage en 2007. Je viens aussi d'un milieu ouvrier. Je viens d'une petite ville dans les environs de Sorel. Et les Américains ont construit là une grosse multinationale de transformation du fer. Mon père a travaillé. C'était infernal comme lieu, extrêmement pollué, des taux alarmants de maladies pulmonaires. Ma mère en a eu une, dont elle a failli mourir. J'ai vu aussi tout le paysage extraordinaire de ma petite ville se transformer, devenir un véritable dépotoir à déchets là, de minerais. Je viens d'une famille de gars aussi, et j'ai vu ma mère servante au service de sa famille, de son mari. Encore dans les années, fin des années 60, les femmes étaient très dépendantes du mari et se définissaient par rapport à leur rôle d'épouse et de mère. Et elle disait pas qu'elle s'appelait, ma mère s'appelait Lucie Lebel, elle disait Madame Charles Péloquin, tu sais, c'était le nom de son mari. Et tout ça a fait boule de neige pour faire en sorte que je sois quelqu'un de très politisé.
Ça fait que l'eau. Je suis bien tannée. Le lavage, le séchage, le pansac, le ménage, l'élevage, le garage. Puis mon mari, je suis donc tannée.
Marjolaine Péloquin a un idéal féministe radical. Il s'incarne au sein du FLF. De son côté, c'est à travers le mouvement étudiant que Lise Balcé fera son éducation politique. Ces luttes l'amèneront progressivement vers le Front de libération du Québec, un groupe radical voué à l'indépendance qui a pris racine dans la fureur de vivre et la rage d'une jeunesse écrasée.
Alors, je me présente, mon nom est Lise Balcé. Je suis une jeune retraitée. J'ai enseigné 24 ans et toujours, j'ai été impliquée dans les événements d'octobre en 70. Quand j'étais élevée avec trois frères, tu penses-tu que c'était ça qui faisait la vaisselle? Pas toujours. Il y avait des privilèges que moi, j'avais pas. Alors, j'étais toujours en rébellion, j'étais toujours en train de gueuler, j'étais toujours en train de chialer, j'étais toujours en train de ruer d'un brancard, tout le temps. J'ai passé ma vie à faire ça. Et je me souviens, à l'âge de 7 ans, on avait une ce qu'on appelle une bonne dans ce temps-là, là, qui s'occupait des enfants, ma mère travaillait. Et je me souviens, Lise, elle mangeait pas à table avec nous autres. Et à un moment donné, j'ai dit, moi, c'est fini. J'ai dit, si Lise mange pas à table avec nous autres, moi, je mange pas à table avec vous autres.
On dit que le sol est fertile après les incendies. C'était un temps d'incendie. Une époque de déflagration, de débordement, d'écœurement, un craving ahurissant de soulèvement entre la chair et l'os. En 1968, la jeunesse mène un combat contre l'establishment politique et économique à travers le monde. Au Québec, une vague de grèves et de luttes étudiantes exalte enfin l'espoir de toute une génération qui se laisse porter par cette rafale de liberté. En 1968, Lise Balcé est étudiante au cégep.
Je regardais faire, je me dis, c'est quoi ça? À un moment donné, j'ai commencé à comprendre. Alors, on occupait le cégep, puis il y a eu Charon, Claude Charon qui est venu. Et c'est là que tout a commencé. Saint-Jérôme.
Discours de Claude Charon, octobre 1968.
S'il y a un thème qui a marqué la démarche des étudiants depuis quelque temps, c'est l'idée que cette relève-là, à ceux-là là, qui ont irrémédiablement échoué, qui jusqu'au plus profond de leurs valeurs ont érigé une société carrément répressive, et dont les allures progressistes ne suffisent pas à maquiller la stérilité qui est la sienne, quand nous, qu'il faut qu'on prenne leur relève, ça va tout de même venir plus vite, puis dans un tout autre esprit que nous fixe la loi normale de génération.
Manifestations ont vue de revendiquer la francisation de l'Université McGill, la tension par quoi.
1969. des mouvements portés par les jeunes prolifèrent et s'étendent. Syndicats, artistes, étudiants et groupes politiques convergent dans la lutte vers le même objectif, la libération nationale et sociale. C'est un terreau propice à l'émergence d'un nouveau féminisme.
Le féminisme radical veut abolir le patriarcat, veut abolir les structures patriarcales, les règles, les normes, les mentalités, dans tous les domaines, dans tous les milieux. Alors, c'était gros, là, comme mission, là, tu sais. Le FLF, ça vient d'une rencontre de deux militantes. Une qui s'appelait Naomi Brickman, qui était étudiante à McGill. Et l'autre, c'était Nicole Terrien, qui était une travailleuse de la CSN, puis qui était au cœur de la mouvance contestataire de Montréal à l'époque. En tout cas, elles ont une grosse conversation à ce sujet-là, au niveau du sexisme. On appelait ça le chauvinisme mâle. On disait pas le sexisme à l'époque, le chauvinisme mâle. Et elles réfléchissent à la possibilité, pourquoi on créerait pas un groupe autonome de femmes, juste des femmes, pour réfléchir sur notre situation, notre condition.
C'est la fin d'une époque. On a goûté à la fureur de celle qui suivrait. La colère se mêle à l'espérance, l'exaspération à l'éclat. Jamais trop loin, la rumeur du peuple, bête féroce de l'espoir, se fait de plus en plus forte. 1969 culmine dans la rue. 97 manifestations ont lieu depuis le début de l'année. 21 depuis octobre. Les luttes se radicalisent. Le maire Drapeau proclame un règlement anti-manifestation toujours en vigueur aujourd'hui. En réponse à cette répression, 200 femmes protestent. Elles s'installent au Monument national, enchaînées les unes aux autres. Bulletin de nouvelles, 28 novembre 1969.
Il est clair qu'actuellement, il n'y a pas de rassemblement populaire possible sans que ça nous mène à une boucherie.
C'est parce que ce groupe-là a existé que va avoir lieu la fameuse manif des 200 femmes du 29 novembre 69. Dans les images, on voit une militante qui a un bandeau avec écrit FLF. On peut quasiment dire que le FLF est né là, tu sais, dans cette manif-là, mais ça va prendre une première réunion après la manif qui, là, va créer officiellement le Front de libération des femmes du Québec. Il va y avoir peut-être une quarantaine de femmes. Il va y avoir une très grosse discussion, je me souviens très bien. Il y a des femmes qui vont partir, qui seront pas d'accord de faire de la libération des femmes la priorité. Il y a des femmes pour qui l'indépendance du Québec va être prioritaire, elles vont quitter. Et nous, on va rester. Donc, officiellement, le FLF est né début décembre 69, mais officieusement, il est né au début de l'automne. On sait pas exactement quand. Son originalité au FLF, ça va être de greffer ses allégeances indépendantistes et socialistes aux féministes radicales. C'est quand même assez unique dans l'histoire qu'un mouvement de libération sociale et nationale commence avec un mouvement de libération féministe, c'est pas rien. Donc, on arrive avec ce nouveau féminisme-là, ça rentre dans nos vies privées, ça rentre dans nos consciences très profondément, dans toute la manière dont on a été élevé, dans nos rapports avec les hommes, ça va nous bouleverser complètement. C'est un féministe qui était vraiment décapant, qui faisait que quand on passait à travers cette conscience-là, on changeait complètement de vie.
Jenny, j'aimerais que tu me parles un peu de ta démarche artistique en tant que telle. Comment ça se passe, cet intérêt pour l'art sonore qui démarre finalement dans la création filmique?
Ben, j'ai essayé vraiment beaucoup de choses. Quand j'ai commencé, j'ai fait des documentaires, j'ai fait des faux documentaires, j'ai fait des fictions, j'ai fait une installation. J'ai expérimenté autant la façon de raconter que ce que je voulais raconter. Et au cours de toutes ces pérégrinations-là, j'ai finalement débouché à la création sonore parce que l'histoire que j'allais raconter se racontait pas autrement. Donc, ça s'est un peu imposé à moi.
Tu trouves qu'il y a vraiment une spécificité dans la création sonore qui lui serait propre et qui est différente, cette spécificité-là, du cinéma?
Ben oui, absolument, parce que moi je compare souvent ça à la littérature. En fait, je trouve que le documentaire sonore a à peu près le même pouvoir évocateur qu'un roman. Donc quand tu lis un roman, tu t'imagines à quoi ressemble le personnage, à quoi ressemble le lieu, à quoi ressemble la ville, ce que t'as pas au cinéma parce que quelqu'un l'a déjà pensé pour toi. Donc c'est un peu la même chose. Là, en faisant mon premier documentaire sonore, j'ai vraiment réalisé que je pouvais mettre tout en place pour que les gens se plonge dans un contexte qui est disparu aujourd'hui, c'est les années 70. J'aurais jamais pu faire un film d'époque parce que c'est hors de prix, puis au Québec, c'est pas accessible. Alors que là, le son me permet de mettre la table pour que les gens s'imaginent à quoi ça ressemblait la crise d'octobre, puis à quoi ça ressemblait la répression de l'époque, puis à quoi ça ressemblait le procès des femmes dont je parle dans Debout.
T'abordes cette question-là. D'où te vient, Jenny, cet intérêt pour la condition humaine? J'utilise cette expression-là, c'est un peu grandiloquent comme affaire, mais il reste que quand on regarde ta production vidéographique, tes préoccupations sont vraiment ancrées dans la vie sociale, la grande mouvance sociétale. Tu parles des années 70. Ça démarre comment, ça, dans cette réflexion chez toi sur le mieux-être des gens, sur la condition des femmes?
Ça commence quand même assez tôt. Ça commence à l'adolescence. J'ai grandi à Québec, puis quand j'avais 16 ans, je passais mon temps, je traînais sur les Portes Saint-Jean. Puis il y a eu une vague de répression intense qui s'articule autour de Salami, puis des accords néolibéraux, puis de l'Asléa qui commençaient. Et du jour au lendemain, on n'avait plus le droit de se tenir sur les portes. À 16 ans, j'ai été gazée pour la première fois par le service de police de Québec. Les Saint-Jean étaient devenues terrifiantes. C'était vraiment le Mordor, c'était n'importe quoi. Puis je pense que rapidement, je me suis rendu compte que qu'il y avait beaucoup de choses pas justes, en fait. C'est un peu naïf de le dire comme ça. Mais qu'il y avait vraiment plus de répression qu'on l'imagine. Puis je me suis beaucoup impliquée, j'ai commencé à militer justement avec l'ASLEA. Puis à partir du moment où tu commences, ben tu vas d'une injustice à l'autre parce que c'est une grande ressource naturelle, là, il y en a partout.
Et Jenny, écoute, j'aimerais ça qu'on revienne, on va sur ta création sonore en tant que telle. Il y a un projet, parmi les projets que tu as réalisés, il y en a un qui s'intitule Hortense, et j'aimerais ça qu'on en fasse jouer, qu'on le fasse jouer intégralement pour les auditeurs ce soir. Et j'aimerais que tu nous en parles de ce projet. Comment il émerge?
Il émerge quand, pour la deuxième fois, j'ai la chance d'être envoyée à Arles, dans une école qui s'appelle Phonergia Nova, qui est une école extraordinaire de création sonore, où ils apprennent autant le documentaire sonore que la fiction, que le field recording, que bon, plein de choses. Puis là, moi, je m'en vais là-bas, je sais que je vais avoir 10 jours pour faire un projet, et ce que j'ai en tête à ce moment-là, c'est que j'ai vraiment envie de faire ma première conception sonore. Donc, je sais que j'ai pas le temps de composer un texte, j'ai pas le temps d'inventer une fiction. De toute façon, je suis pas autrice, moi, j'écris pas. Puis là, je me cherche une histoire que je pourrais raconter simplement, puis qui me permettrait de me concentrer vraiment sur la conception sonore, puis apprendre à en faire. Donc, je me suis dit qu'une nouvelle, c'était la meilleure solution. Puis Esther Rochon, c'est une autrice que j'aime depuis toujours. Ses livres ont marqué mon adolescence. Donc, je lui ai écrit et elle a accepté. Et j'ai mis la première journée à enregistrer la voix. Puis après ça, j'ai eu les 9 jours pour essayer de créer ces 3 mondes merveilleux.
Donc ça, c'est une création qui s'inspire d'un texte d'Esther Rochon qui s'intitule La Roseraie, je pense.
Oui, qui est une nouvelle qui est parue dans un recueil qui s'appelle Le piège à souvenirs.
Et ça a été quoi ton fil conducteur pour la création sonore en tant que telle?
Mon fil conducteur, ça a été vraiment... ça a été de définir les endroits, d'abord. Je me suis vraiment demandé à quoi je pensais que ces endroits-là ressemblaient. Puis il y en a 3. En fait, la nouvelle, à l'origine, elle se passe à Montréal. Mais là, comme j'étais en France, il fallait que je savais que les voix allaient être françaises. Puis au début, il y avait plus de voix. Là, au début, j'avais fait jouer les capitaines, les matelots, les gens, mais tout ça a fini par partir. Mais il reste que l'interprète principale est française. Donc là, j'ai transposé ce récit-là en France, avec les gens là-bas qui m'ont dit que le Havre était probablement la ville qui ressemblait le plus à Montréal. Et là, donc j'avais le Havre, j'avais le bateau et j'avais l'autre espèce de monde fantastique qui ressemble un peu à Arkham, qui est un monde tiré de Lovecraft. Donc j'ai défini ces 3 lieux-là, puis j'ai commencé par faire la recherche d'images. Puis quand j'ai trouvé à quoi ça ressemblait, là j'ai commencé à chercher les sons.
Jenny, on écoute cette belle trame intitulée Hortense.
Lors d'un passage dans le centre-ville, je suis entrée dans une boutique de beaux objets naturels. Dans une montre, on pouvait admirer des géodes d'agate et d'améthyste. Prise de rêverie, je suis descendue dans une géode d'agate brune dont l'intérieur était tapissé de cristaux de quartz. Au-dessus de moi, l'agate formait un ciel nuageux, évoquant celui du Havre un soir d'hiver. Soudain, une voile parut à l'horizon. Un bateau noir, irisé, à reflets pourpres, verts et turquoise. Une chaloupe s'est détachée et s'est approchée de moi. Deux marins m'ont invité à monter à bord et nous sommes partis sous les plumes de paon du ciel venteux. J'ai monté l'échelle de corde et je me suis retrouvée sur le pont du navire. On m'a servi du vin mordoré. On a festoyé, dégustant muscat et crevettes et même une raie pochée qui souriait encore. L'étrave noire du voilier fondait les flots qui palpitaient comme des gorges de pigeons. Le capitaine était aussi beau que son bateau. L'œil sombre, le teint de bronze, il portait une coiffure de plumes. Le cuir de ses bottes luisait autant que les boiseries de l'escalier que j'ai descendu pour me rendre à sa cabine. Après avoir fait l'amour dans des draps de soie, nous sommes remontés sur le pont. Nous étions seuls. Nous avons levé la tête et, très haut dans le ciel beige, planait une voie lactée qui avait mon visage. Mon visage regardant une géode. C'est à ce moment que je suis sortie du magasin. J'ai erré dans la foule brune comme une agate et ma rêverie a repris. Hortense, me dit le capitaine, et c'est ainsi que j'ai appris mon nom. Hortense, aimez-vous mon équipage ? Afin de lui répondre, dans les jours qui suivirent, j'ai fait l'amour avec chaque matelot. Leur corps avait des formes et des teintes diverses. Un enfant de cœur et un vieux bagnard, un satyre et un ascète. Une belle originale et un cacatoès dont je me suis contentée de lisser les plumes. Tous furent merveilleux. Ils avaient chacun leur cabine, meublée en fonction de leur personnalité. Ces personnes dont la compagnie m'était si douce, ces habiles marins, évoquaient en moi de vagues souvenirs. Tu ne me reconnais pas, Hortense ? Me demanda un jour le capitaine. Qui était-il ? Le capitaine Nathaniel Clegg, père de la bouleversante Imogène ? Le commis de la quincaillerie d'en face ? Ou bien ce professeur d'université, débitant des chiffres devant une classe qui n'écoutait pas ? Pourtant, dehors c'était la nuit. Dehors c'était le vent. Dehors, c'était notre navire cinglant vers Arkham. loin, nous avons vu se profiler une cité. Les flots ocres teintés de vert étaient à présent délicatement ornés de goémons et des laminaires rougeoyaient dans la pénombre. Nous avons jeté l'ancre à bonne distance des quais. J'ai levé la tête et j'ai vu le Havre qui se réfléchissait sur le miroir du ciel. Au Havre, je marche dans la neige fondante rue de Paris. Mes bottes sont déjà mouillées. Je ne peux pas m'empêcher d'observer les gens autour de moi. Je cherche quelqu'un, comme d'habitude. Les visages passent très vite. Ils ne s'arrêteront pas. J'espère encore trouver qui aimait et qui m'aimerait en retour. L'indifférence et le rejet ont été mon lot. Je n'ai rien oublié, rien pardonné. La haine et le désir d'aimer me brûlent à parts égales. Arrivé au boulevard Saint-Jacques, je tourne à gauche. J'entre dans un magasin de tissus, refuge des femmes qui ont l'âge de ne plus être regardées.
Vous pourriez me dire...
Il y a des paillettes, comme sur la robe que je portais le soir où Gilles m'a laissée. Et des tricots d'acrylique, que mettait une certaine adolescente. Ce garçon que j'attendais à la sortie des classes, comment s'appelait-il ? Je ne sais pas qui je suis. Je me promène. Femme de sentiments et de ressentiments, entourée d'une gangue de pulsions inassouvies, j'erre dans le Havre. Mes rancœurs sont devenus les matelots d'un bateau de rêve. Hors du temps, ils ont surgi, parés de toutes les phosphorescences du souvenir. Je les déteste et je les aime. Nous sommes entrés dans la cité par un large canal. Des quais inconnus nous font face. De puissantes machines nous halaient, conduites par des matelots. C'était une grande ville de ciment et de granit rose presque vide. Au fond des rues profondes, j'apercevais bien quelques voitures, quelques silhouettes voûtées, sans doute à cause du vent près des gratte-ciel. Une fois le bateau amarré, nous avons débarqué. Je me suis laissée guider par mes compagnons. Nous sommes arrivés sur une grande place. Dans le poudroiement orangé de l'aurore, j'ai vu la plateforme, le billot et la hache. Quelques citadins se sont joints à nous. La plupart avaient des visages d'animaux, puissants et sereins. Plusieurs des ailes. En silence, les marins, le capitaine à leur tête, se sont mis en file indienne. Je suis montée sur la plateforme. J'ai saisi la hache avec les deux mains. Quand le capitaine s'est agenouillé devant moi, la tête sur le billot, je me suis adressée à lui avec la familiarité qui existe entre deux amants. Écoute, je ne suis pas assez forte pour te trancher le cou. L'homme dont il était le souvenir ne m'avait pas accordé un seul regard. Mais lui, il m'a regardé. Vas-y, siffla-t-il. J'ai écarté les jambes, levé la lourde hache, je l'ai abattue avec toute l'énergie dont je suis capable. La tête s'est transformée en une rose et le corps en un rosier. Les uns après les autres, je les ai tous exécutés sous les murmures d'encouragement de la foule qui s'était amassée peu à peu. Certains se sont transformés en géraniums, d'autres en églantiers des grèves aux branches vigoureusement hérissées d'épines. Ces vieux souvenirs, je ne les avais jamais émondés. À la fin, je me suis retrouvée au milieu d'une roseraie aux opulents parfums. Je tire une lourde porte. J'entre à la gare. La foule y est dense. Vous qui passez ici, arrivant de Brest, de Calais ou de Grenoble, partant pour Metz, Narbonne ou Lyon, je vous aime. D'un amour fugace, sans ressentiment. Que surgisse la passion, son cou sera tranché. Alors, les roses seront belles. Depuis ce soir-là, je coule au Havre des jours paisibles. Les passants qui me bouleversent, je ne cherche plus à les revoir. Ce sont des roses de plus dans la grande roseraie rouge. La roseraie d'août, où chantent les cigales.
Jenny, dis-moi, tes projets, les projets qui sont en marche sur le plan de la création sonore, puis j'élargis sur le plan de la création au sens large, quels sont là, tes beaux projets à venir?
Bien, j'en ai deux. Je travaille sur un long métrage avec des images cette fois-ci, mais dans lequel le son prend pour la première fois vraiment, vraiment au moins autant d'importance que l'image. Puis ça, je pense que c'est comme mon nouveau bagage de création sonore qui est embarqué là-dedans. Et c'est un documentaire sur mon quartier qui s'appelle Parc Extension, qui est un quartier principalement de personnes immigrantes, qui est en train d'être complètement défiguré par la gentrification et par l'inaction des gouvernements. Donc, je fais ça et je suis aussi en train de faire un autre documentaire sonore. Celui-là, il va être en anglais. Et c'est un peu le pendant des militantes féministes de la même époque que Debout, mais du côté des anglophones, parce qu'à l'époque, il y avait une grande séparation, je ne sais pas comment le dire, mais les francophones et les anglophones, il y avait une plus grande division qu'aujourd'hui, admettons. Et puis, ça parle de l'accès et de la lutte pour l'avortement.
Jenny, très, très heureux d'avoir fait ta connaissance. Et avant de se quitter, j'aimerais ça tout de même présenter aux auditeurs un extrait de ce beau projet qui s'appelle Le Temple. Et tu me dis juste quelques mots sur ce projet.
C'est un film que j'ai fait à partir d'images du Sri Lanka. Je filmais mon incompréhension. C'est quelque chose que je fais souvent quand je ne comprends pas, prendre des photos ou filmer ou enregistrer. Et là, j'étais dans une cérémonie hindoue, je ne comprenais rien. Donc, j'ai filmé ça. Je l'ai monté un peu pour représenter à quel point je ne comprenais rien. Finalement, c'est pour ça que l'image est toujours divisée. Et j'ai eu la chance de travailler avec un concepteur sonore extraordinaire qui s'appelle Romain Legros, qui a mis une très belle musique sur ces images-là.
Et Jenny Cartwright, merci beaucoup.
Merci à toi.
Alors, ainsi s'achève cette rencontre avec Jenny Cartwright et ses projets sonores. Jenny, artiste du son et de l'image qui vit et travaille à Montréal, une passionnée des environnements sonores et du pouvoir de la parole. Alors, je la remercie de m'avoir permis de faire cette rencontre et de présenter son travail. Alors, j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez retrouver la liste des pièces entendues ce soir sur le site L'Accroche-Oreille. Vous allez trouver ça facilement sur la toile. On y retrouve le descriptif de l'émission ainsi que toutes les pièces entendues durant l'émission, ainsi que les balados pour écoute immédiate ou en différé. Cela dit, restez avec nous, c'est House and Swing qui s'amène avec Pierre-André et Guillaume. Quant à moi, je suis de retour la semaine prochaine, 21h sur les ondes CKRL 89.1. Ici Gaëtan Gosselin qui vous salue.
CKRL 89.1.